Donc, l'ordre du jour est fini. Il y a peut-être sur les décisions, s'il y a des décisions, alors, dites, voilà.
Merci, monsieur le maire. Au niveau des décisions, j'ai une petite question à vous poser, monsieur le maire, puisque j'entends des choses et le meilleur moyen d'en avoir la réponse, c'est de vous poser la question à vous. La décision 2019... 373, une des premières, qui concerne donc la formation pour gérer et manager un service archive. D'accord ? Est-ce que cette formation s'adresse à la personne qui a été recrutée au niveau, pour les archives ? Oui ? Alors, je vais formuler. Non, mais après, peu importe. Hein ?
Oui, oui.
Bon, alors je vous pose la question.
C'est pour une veille juridique.
D'accord. La question que je vous pose est la suivante. Il se dit que vous avez créé un jury pour un recrutement concernant la personne responsable de la gestion et des archives. Or, cette personne serait passée hors jury et cette personne n'aurait pas les compétences requises. Vrai, faux. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Je pense qu'elle était au jury et donc, de toute façon.
Elle est passée par le jury ? Oui, non. Voilà. Oui, non. Est-ce qu'elle est passée devant le jury ? Est-ce que ce dossier a été validé par le jury ? Non. C'est la question que je vous pose. Voilà. Oui,
moi,
non.
Je n'étais pas au jury. Je pense que cette personne était validée par le jury.
Bon, oui, donc il y a des. Parce que comme ça, il faut aller au bout du bout. Il y a des traces et on peut avoir trace de ce jury et du recrutement. Parce que moi, ce qui me gêne, la personne, je ne la connais pas. Ce qui me gêne, c'est, un, qu'elle ne passe pas. Bon, on monte le jury, c'est quand même anormal. Et deux, on me dit, elle n'a pas les compétences pour. Donc, deuxième question, a-t-elle les compétences ou pas pour manager et gérer le service archive ? Voilà.
Oui, elle a les compétences pour. Enfin,
écoutez, en tant qu'élu, je vous demande de voir le dossier, comme ça.
Non, mais enfin, on lui dira ce que vous pensez d'elle. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Non, mais Monsieur Davé, c'est quand même des procès d'intention. À un moment donné, il y a des jurys, il y a d'autres moments où il n'y a pas de jury, il y a d'autres moments où c'est des gens de la collectivité qui passent. Bon, à un moment donné, il y a des remises à niveau, etc.
Monsieur le maire, il n'y a aucun jugement d'intention sur quiconque. Il y a simplement.
Mais si.
Non, je ne la connais pas. Je ne sais même pas physiquement comment elle est. Je ne connais même pas son nom. Il y a simplement une procédure qui est en place, a-t-elle été respectée ? Oui, non. C'est tout. Vous m'en donnez des éléments.
Elle a été respectée, oui.
Voilà. Eh bien, alors, parfait. Vous nous montrerez ça et puis on verra.
Voilà. Oui.
Donc, j'avais aussi, concernant les archives, j'ai vu que dans les décisions, la décision 2019-483, donc il y avait, je crois, un appel, vous avez lancé un appel d'offres concernant la construction d'un local archives, c'est ça ? Bon. Sincèrement, je me pose la question. On crée un hôtel de ville, une mairie, 3000 m², 3 niveaux, et on n'a pas pensé un seul instant qu'il risque d'y avoir, au bout de 5 ans, parce que ça fait à peu près 5 ans que nous sommes là, au bout de 5 ans, on ne s'est pas dit, mais attends, les archives, c'est quelque chose dont on est obligé de garder dans certaines matières d'urbanisme, et on ne s'est même pas posé la question. On fait un hôtel de ville de 3000 m², et on n'est pas en capacité, 5 ans après, à conserver des archives. Bon, chapeau.
Bien. De toute façon, c'était dans le cadre de la mutualisation avec la COBAS. Je ne sais plus si vous en rappelez. Il avait été prévu de mutualiser les archives. Et donc, cet appel est lancé donc, pour créer derrière le CARM un bâtiment archive mutualisé avec les communes qui le souhaitent, y compris le CIBA, y compris avec les collectivités. Voilà. C'est un bâtiment.
Mais il y a 5 ans, on aurait pu y penser aussi.
1800 m². Il avait été envisagé de faire une mutualisation. C'était parmi les projets de mutualisation de la COBAS. Il se trouve qu'à l'époque, ça n'avait pas été suivi des faits. Et donc maintenant, nous avons reconsulté les besoins. Bon, puis après, il y a eu un problème au niveau du CARM où il y a quand même certaines moisissures, etc. On s'aperçoit que le bâtiment n'est pas efficient et donc il faut un nouveau bâtiment pour conserver ses archives. On en profite, puisqu'il y a une réserve foncière, de solliciter les autres collectivités. Il y en a plusieurs qui ont répondu favorablement. Il y en a 3 qui ont répondu favorablement, plus la COBAS, plus le CIBA et plus d'autres. Et on va essayer de mutualiser dans un intérêt général.
Dernière question concernant la 394, toujours 2019 évidemment, qui est la formation préalable à l'armement. Dois-je en déduire, et j'en suis ravi, que vous envisagez d'armer la police municipale?
Oui, tout à fait.
Bon, comme vous avez dit, tant que je serai maire, ça ne se fera pas. Donc vous avez changé d'avis.
Comme nos deux communes voisines.
Tant mieux. Non, mais vous avez changé d'avis. Vous avez dit, tant que je serai maire, ça ne se fera pas. Donc, ça ne se fera jamais. Donc, vous avez changé d'avis. Et j'en suis ravi, parce que moi, dans tous les cas, ça fait partie aussi des éléments que je comptais faire.
D'autres interventions?
Je rebondis là. Et moi, c'est pas une bonne nouvelle. Hein. Voilà.
Que voulez-vous? On ne peut pas contenter tout le monde. Si c'est fait, c'est pas dans le but de contenter quelqu'un, c'est dans un but d'intérêt général et d'une demande générale et d'une vie, dans une collectivité avec 4 communes et donc d'avoir une certaine unité et harmonie. C'est bon pour les questions diverses? Bien, ben on va donner la parole à M. Davé, puisque M. Davé m'a posé des questions écrites, donc... Je vais lui donner la parole, puisque la première question écrite, c'est sur les risques majeurs, de savoir qu'est-ce que la commune a fait. Donc, je vous laisse nous lire votre question écrite.
Alors, monsieur le maire, dans le document d'information sur les risques majeurs édité par notre ville, le DICRIM, dossier d'information communale sur les risques majeurs, la tempête est citée dans les listes d'événements potentiellement dangereux pour notre commune. Notre ville a également mis en place un système de télé-alerte, appelé le VIC, Vigilance et Information Communication. Ce réseau a vocation d'informer la population en cas de danger et il est déclenché par le maire. Concernant la tempête Amélie, qui avait été annoncée depuis plusieurs jours par tous les médias et qui a fait des dégâts importants avec des vents violents et de fortes pluies, est-ce que le système VIC a été activé? Merci pour votre réponse.
Bien, donc je vais évidemment répondre à votre question. Ça va être un peu long parce que, bon, quand même, beaucoup de choses ont été faites. Hein. Il n'y a pas que le système VIC. Donc, tout d'abord, je tiens ce soir, même si je l'ai fait la semaine dernière, donc au Centre technique municipal de la ville, à remercier l'ensemble des personnels qui étaient sur le terrain, au plus près de la population, dès 6h du matin, le dimanche de la tempête. Je tiens aussi ce soir à préciser que nous sommes... encore loin d'avoir effacé tous les signes de la tempête Amélie. Vous savez quand même que notre territoire est vaste et qu'il est énormément arboré. Donc nous aurons encore plusieurs semaines de travail pour en venir à bout. Alors concernant la gestion de crise, la ville était en alerte concernant un événement météorologique important, signalé uniquement par les services de Météo France, et ce dès le jeudi 31. Le premier étant un jour férié, donc il y avait un pont. Par précaution et ne sachant pas exactement l'ampleur du phénomène, nous avons anticipé avec les services. Nous avons pris certaines mesures comme il est inscrit dans nos procédures, à savoir une veille et une surveillance du patrimoine à risque, démonter les tentes, les barnums qui étaient sur le territoire, notamment à Cazaux et à la Plaine des Sports, effectuer les interventions auprès des chantiers, pour mettre en sécurité notamment les grues en girouette. Le vendredi soir, les équipes d'astreinte, cadres, agents et élus étaient toujours dans l'attente d'une alerte météo de la préfecture. Je vous signale quand même que l'alerte météo de la préfecture a été excessivement tardive, puisqu'elle n'est arrivée que le samedi matin à 7h52, exactement, sans réelle information d'ampleur sur l'événement météorologique. Elle ne signalait juste que des vents forts entre 2h du matin et 11h le dimanche matin, donc ce qui a entraîné immédiatement la décision de fermer le marché et d'annuler tous les événements extérieurs qui pouvaient avoir lieu et qui, pour la plupart, déjà s'étaient annulés. À partir du moment où l'ensemble des équipes étaient en alerte, en ordre de marche et préparées à faire face, nous n'avons pas estimé que l'événement méritait une communication via le service d'alerte de la population VIC et qu'il n'était pas utile d'affoler la population déjà largement informée par les médias et les services météo. Tout ce qui devait être fait par les services de la ville l'a été fait en temps et en heure, et en effet, dès 6h du matin, les équipes étaient sur le terrain pour libérer les accès des services de secours et des différents opérateurs. Les tests-reins pouvaient circuler sans encombre dès 7h30, même si, évidemment, la circulation n'était pas recommandée. Une cellule de crise composée de l'adjoint d'astreinte, des élus de secteur, directeur général des services, cadre, responsable technique d'astreinte, les pompiers, la police municipale, enfin, toutes les personnes concernées, s'est réunie en mairie et a piloté les opérations sur le terrain et au plus près des tests-reins, les agents d'astreinte, plus des agents volontaires. Des services techniques étaient en charge donc de la partie opérationnelle, à savoir les déblaiements, les tronçonnages, les sécurisations, etc. Les élus, évidemment, étaient également présents, que ce soit à la Teste, mais aussi dans les secteurs de Cazaux et du Pilat, pour en répondre à l'ensemble des demandes des habitants, et notamment pour les personnes signalées les plus fragiles. Il y a eu des mises à disposition de groupes électrogènes, d'autres, il y a eu des demandes de relogement, des discussions avec la famille, enfin, tout simplement, pour aider donc l'environnement le plus proche et faire remonter l'ensemble des demandes. Le numéro d'astreinte connu de la population a fonctionné normalement et les tesserins ont une réponse chacune à leurs questions et à leurs demandes d'intervention. D'ailleurs, à ce jour, nous n'avons reçu aucune plainte de la population sur une éventuelle mauvaise gestion de cet événement climatique. Et ce qui est important, donc, il n'y a pas eu de blessés donc, consécutifs à cette tempête. Dès le lundi, en collaboration avec la COBAS, donc, les maires se sont réunis, bien sûr, et ont décidé, avec la COBAS, en appui, de proposer un ramassage de déchets pour soulager les tesserins. Et ça, je pense que nous l'avons dit, nous allons le prolonger jusqu'aux vacances de Noël, puisqu'il y a quand même pas mal de propriétés, pas mal de résidences secondaires, où des gens vont peut-être venir, disons, dans les semaines. Il y en a qui sont venus pour le 11 novembre, il y en a, bon, etc., etc. Donc, on a proposé de le prolonger jusque-là. Une réunion de retour d'expérience, donc, bien sûr, est d'ores et déjà programmée. Dans le cadre de la réorganisation des services, elle nous permettra, évidemment, de formaliser une procédure commune et donc d'enrichir, bien sûr, le DICRIM, ce fameux document d'information communale sur les risques majeurs. Je tiens à préciser que VIC n'est qu'un outil de gestion de crise que l'on décide d'utiliser ou pas. Vous n'êtes pas sans savoir que la communication en temps de crise est quelque chose de très délicat à manier et, évidemment, avec beaucoup de précautions. Pour conclure, vu le contexte, je n'ai pas jugé bon et nécessaire d'alerter la population via le système VIC. La tempête est annoncée pour 2h du matin, une heure où la plupart des tesserins sont à leur domicile et ce n'est pas pour autant que la population n'avait pas d'informations et que l'événement n'a pas été bien géré. Voilà, encore une fois, évidemment, je tiens à remercier les agents de la ville, ceux d'astreinte et tous les gens qui se sont portés volontaires pour leur activité et leur dévouement au service de la population. Et j'avoue quand même qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de mobilisation, et même dans la population, pour secourir, évidemment, les uns et les autres et leurs voisins. Maintenant, je vais donner à nouveau la parole à M. Davé pour sa deuxième question concernant le Music Pole.
Deux petits chiffres là, puisque vous dites que les tesserins, au travers des différents médias, ont été avertis suffisamment à l'avance. Et vous m'avez dit que vous avez eu que l'avertissement de la préfecture un peu tardivement et qu'avant, vous...
Mais c'est factuel, monsieur, voilà.
D'accord.
On l'a eu, l'avertissement, c'est juste, hein, c'est 7h52 le samedi. Alors c'est vrai qu'on a vu sur les radios, etc., bon, les réseaux sociaux, tout ce que vous voulez. Voilà, mais moi, je ne dois aussi agir que, et Dieu sait si souvent, la préfecture nous alerte, alors m'alerte personnellement, alerte les services, je suis joignable en permanence, et ça a été à 7h52 le samedi matin.
Merci, monsieur le maire. Deuxième question, donc, monsieur le maire. Dans le cadre de l'article L2121-10 du Code général des collectivités territoriales et de la jurisprudence constante en découlant, je vous demande d'inscrire à l'ordre du jour donc, du Conseil municipal du 21-11 à la rubrique questions d'hiver la question suivante. Suspension du projet de territoire musique comprenant un conservatoire municipal, un pôle musique communautaire et un parking souterrain. En effet, je vous renouvelle en mon nom et celui de mes colissiers la demande formulée en date du dernier conseil municipal du 26 septembre 2019. Ce projet à plus de 20 millions d'euros à minima n'a fait l'objet d'aucune concertation ni avec la population testerine dans son ensemble, ni même avec la totalité des élus du conseil municipal. De plus, Le montant total de ce projet exorbitant, avec en particulier un parking souterrain évalué entre 8 et 10 millions d'euros, n'est certainement pas une priorité pour les Testerins, Casalin et Pilaté. Je les ai cités tout à l'heure, les priorités. Il est donc nécessaire d'avoir une réflexion d'ensemble avec des débats en conseil municipal ici pour l'avenir de notre commune, avec une projection sur les 30 prochaines années, notamment sur la zone cœur de ville délimitée par le triangle port, plage à mots, marché. Dans l'attente de votre retour par écrit, mais vous allez me le dire. Donc voilà, monsieur, je redis ce que j'avais déjà en conseil. Je ne suis pas défavorable au conservatoire, puisque nous avons une école de musique reconnue et réputée, avec entre profs élèves, ça présente plusieurs centaines, donc j'y suis tout à fait favorable, tout à fait. Mais je souhaite que ce projet, monsieur le maire, comme je vous l'ai dit, vous ne consultez pas simplement pour nous demander la couleur des rideaux, il faut qu'il y ait une réflexion d'ensemble. C'est la population testerine qui va payer, elle doit être informée en amont de ce projet, savoir si c'est une priorité pour elle, oui ou non. Moi, je ne pense pas, au travers de ce que j'entends de plus en plus dans la rue, parce que les gens, maintenant, sont suffisamment informés. Donc, je vous demande, un, de le suspendre, parce que dans 4 mois, vous pouvez très bien gagner les élections.
Monsieur Davé, vous l'avez lu, je pense qu'on a compris. Vous n'allez pas refaire 50 fois la campagne électorale.
Je vous ai écouté une réponse tout à l'heure d'un quart d'heure que vous lisez. Je
vous écoute. Monsieur, c'est mon droit.
Le mien, le droit de dire aussi les choses. Je suis en conseil.
On est dans des questions écrites, vous avez posé, je vous réponds de façon factuelle. Oui, vous êtes un élu, d'accord, mais ça ne vous donne pas tous les droits.
Au même titre que vous, je suis un élu. Rappelez-vous l'histoire de notre... pourquoi nous sommes ici, comment nous sommes ici, rappelez-vous. Donc voilà, maintenant, écoutez, répondez avec grand plaisir.
Voilà, bon, alors, on va vous donner... Donc, c'est un projet de territoire musique en Sud-Bassin, donc vous le savez. Donc les chiffres présentés... Les chiffres qui sont présentés ici donc, sont ceux du concours, lancé en juillet 2019. Alors vous vous affolez avec des millions, etc., comme si c'était la commune qui paye tout. Hein, donc voilà, vous avez un montant du projet. Ah mais monsieur Davé, nous sommes dans une procédure. Il y a une question écrite, vous l'avez posée, je vous réponds, il n'y a pas de débat. Hein, donc on est là, plusieurs fois vous avez relancé la machine, là on est dans un certain règlement. Bon, le montant de ce projet, vous l'avez là, est de 12,29 millions d'euros, c'est le projet du concours, avec un conservatoire de musique à la charge de la ville de 3,5 millions, un music pole à la charge de la Cobasse de 3,077 millions, un parking souterrain qui sera partagé entre les deux parties de 4,17 millions, et un aménagement des espaces publics qui sera aussi partagé de 0,85 millions d'euros. Ce qui fait, pour la répartition des travaux, à charge de la ville, alors ça fait 7, on va parler en TTC, hein, 7,20 millions d'euros, et pour la Cobasse, 7,53 millions d'euros. Voilà. Après, comme c'est un projet global et que nous sommes entre deux collectivités, il était important de pouvoir prévoir la totalité de ce qui pouvait se passer, et donc de prévoir ce qu'on appelle des TDC, avec des provisions pour actualisation des prix, des provisions pour aléas, des assurances de dommages ouvrages, etc., etc. Alors à chaque fois, évidemment, ça fait un certain nombre de millions d'euros, avec un montant général, comme vous l'avez dit, à 20 millions d'euros, qui se répartissent. Non, mais il ne faut pas dire à tout le monde que la ville va payer 20 millions d'euros. Donc c'est réparti. Non, mais c'est... Mais Monsieur Davé, voilà, il y a des procédures. Je voudrais qu'on s'y conforme. Hein, à un moment donné, on est adulte, on ne va pas s'invectiver. Il y a des procédures, on les respecte. Vous avez posé votre question, vous l'avez déjà dit plusieurs fois. Mais là, je suis dans cette réponse. Voilà, je veux que tout le monde le voie et qu'on arrête de dire n'importe quoi. Donc, voilà, c'est factuel. Vous avez les chiffres. Bon, après, les montants sont réels, ils sont affichés. Ça a été les montants du concours. Voilà. Ah, il faut bien que les gens le gardent en tête et ne pas dire à la population que la ville va payer 20 millions d'euros. Donc c'est un projet, hein, je le répète, donc un projet de territoire de musique qui est porté par la Cobasse. Hein, donc on a le Music Pole qui est porté par la Cobasse pour les quatre écoles de musique des quatre villes. Et le projet de ville, c'est un projet de conservatoire de musique et d'art dramatique. Ce projet, il a été présenté et validé par tous les élus de la Cobasse, vous compris. Bon. Je voudrais le mettre en parallèle avec un autre projet aussi important à mes yeux. Je voudrais le mettre en parallèle avec un autre projet aussi important à mes yeux, qui a été voté le 4 novembre dernier à la COBAS, qui aussi à l'unanimité, c'est la reconstruction du groupe scolaire des Miquelots et du gymnase attenant. Et là, c'est quand même un total aussi, c'est pas anodin, c'est important, mais c'est très utile, de 10,9 millions d'euros, donc pratiquement 11 millions d'euros. Donc ça, c'est un groupe scolaire avec, pour un effectif de 350 élèves. Et dans cette délibération, il ne s'agit que des bâtiments, hein, il ne s'agit que des bâtiments de l'école des Miquelots. Et pas la même chose que dans le projet du territoire, où nous avons des bâtiments, où nous avons un parvis, où nous avons des parkings, où nous avons des aménagements paysagers, urbains, et nous avons des voies qui sont traitées, et qui s'adressent à un public beaucoup plus large, puisque je vous rappelle que c'est un projet de territoire qui va accueillir les quatre écoles de musique, hein, sur le Music Pole, et que l'effectif de notre conservatoire de musique, il est quand même de 500 élèves, donc vous voyez, donc la proportion, il faut quand même comparer ce qui est comparable. De plus, ce projet, bon, comme je vous dis, certes important, il n'obérera en rien, hein, les investissements, notamment les voiries, hein, qui vous sont chères, comme à moi, bien sûr, sur la commune. Vous avez vu que nous allons encore investir 16 millions d'euros, et les années, si je suis à la tête de cette commune, je continuerai, n'en déplaise à certains, la même politique, hein, de voirie, etc. On vient de le voir dans le DOB, tout cela se fait sans augmentation des impôts et avec une dette stable, puisque le seul emprunt qui sera contracté cette année sera ce sera un emprunt équivalent à la tombée d'emprunt. Voilà, je veux quand même aussi le dire. C'est pas la peine d'affoler toujours la population, hein, avec des chiffres qui n'en sont pas. Je conclurai, Monsieur Davé, en vous rappelant que pour notre majorité, l'éducation et la culture sont deux piliers essentiels de notre politique. Tout le monde sait ici l'importance que j'y accorde, et notamment au niveau des écoles, puisque vous savez qu'avec les Miquelots, c'est la 6e école entièrement rénovée depuis que je suis à la tête de cette ville. Je sais bien sûr que la culture n'est pas votre priorité, hein, mais pour moi l'éducation artistique et culturelle, Monsieur Davé, je vous demande de me laisser la parole, hein. Je sais que la culture n'est pas votre priorité, je le répète, mais pour, je pense que tout le monde le sait, hein, ici, hein, mais pour moi, Madame Poulain, je vous prie de vous taire, mais pour moi l'éducation artistique et culturelle, mais parce que nous sommes dans une formulation spécifique des questions-réponses, c'est un peu comme à l'Assemblée ou ailleurs, une question. Mais madame. Madame, je n'impose pas mes points de vue, je fais voter et la majorité vote. Voilà. On continue. Écoutez, il y a quand même des gens là qui sont témoins de ce qui a été voté à la COBAS. Alors, on ne peut pas dénier... Bon, je continue. Voilà. Pour moi, l'éducation artistique et culturelle complète l'enseignement traditionnel et a un rôle social très important, ce qui est aussi important que l'éducation. La culture est l'élément vital d'une société dynamique, je dirais tout simplement qu'elle participe à l'amélioration du vivre ensemble et nous en avons plus que jamais besoin. La culture apporte de précieux avantages sur le plan social et économique parce qu'elle participe à l'amélioration de l'éducation et de la santé, elle participe à l'amélioration de la tolérance et elle donne l'occasion de se réunir. De plus, participer à des activités culturelles permet aux enfants et aux jeunes d'élargir leur capacité de réflexion et d'adaptation et de renforcer leur estime de soi, ce qui au final se ressent aussi dans leurs résultats scolaires. À titre d'exemple, les élèves issus de familles modestes qui participent à des activités artistiques à l'école ont 3 fois plus de chances d'obtenir un diplôme que les autres. Le vivre ensemble et la réussite de notre jeunesse, c'est ce que j'ai toujours prôné hier, aujourd'hui et demain encore. Vous l'aurez compris, le projet continue. Le 25 octobre, le jury s'est réuni et a, re- et a retenu 4 équipes. Les 4 équipes sont, il y avait 68 dossiers, donc nous avons 4 groupes. Le groupe King Kong de Bordeaux, hein, qui a fait des choses assez remarquables, bon, peut-être, je ne vais pas tout citer, mais donc un espace culturel, et dans les cultures urbaines à Lille. Nous avons Rudy Ricciotti, si ça vous dit quelque chose, je pense quand même, c'est quand même quelque chose aussi de très très important, qui a fait l'Arena, le Mucem, les musiques actuelles à Metz. Le groupe Henri Trio, alors Ricciotti est de Bandol, Henri Trio est de Bruges, qui a fait le Palais des Congrès de Bordeaux, Kedge à Talence, etc. Et le cabinet W Architecture avec Kaplan, qui lui a fait le Conservatoire de musique de La Rochelle, le Musée de la Préhistoire aux Aizy, et j'en passe. Voilà, donc le calendrier... Le calendrier, la remise des projets est pour la mi-janvier 2020 et le jury va à nouveau se réunir pour désigner le lauréat fin février 2020. Voilà, donc voilà, je vous ai répondu. Donc l'ordre du jour est terminé, les questions sont traitées. Je vous souhaite une bonne soirée et merci. Le prochain conseil sera le 17 décembre.